Aujourd'hui, la presse va mal parce que la démocratie va mal.
Quatrième murmure.
Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble.
L'émission qui porte la voix de la presse libre et des médias indépendants.
Moi, ça me fait respirer. En fait, la presse indépendante, elle m'ouvre des poches de respiration.
Un mardi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Libérons l'info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires.
Vous le savez, la presse indépendante est un contre-pouvoir, mais elle est aussi une voix qui s'élève face aux médias dominants et bien souvent possédée par des milliardaires réactionnaires qui font leur beurre, notamment sur le racisme, sur la haine et sur la peur. À rebours de cette conception peu reluisante du journalisme, nous recevons, dans ce 7e épisode de 4e Murmure, le média indépendant Getty News, et en particulier les journalistes Leïla Amar et Anderson Desmichel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Getty News, c'est un média qui traite de sujets de société à travers le double regard de journalistes français et de journalistes exilés. On va découvrir tout ça avec vous ce soir. Et puis toi Anderson, tu vas revenir plus précisément sur une enquête que tu as menée dans les prisons haïtiennes. Et on aura aussi, comme d'habitude, pour commencer l'émission, une revue de presse des médias indépendants avec PA. Et pour conclure l'émission, on ira avec toi, Cléo, en région. Dans quel coin de la France est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ?
Je vous emmène à Rennes.
Eh bien voilà, alors pour ne rien louper de tout ça, restez avec nous. Vous écoutez 4e Murmure sur Radio Campus Paris.
4e Murmure sur Radio Campus Paris.
Et à chaque début d'émission, on commence par une revue de presse des médias indépendants.
T'as pas lu les journaux ?
Ah, comme je suis au courant de rien, excusez-moi.
Mais... T'inquiète, on s'occupe de tout, tu t'occupes de rien.
Moi j'adore lire les journaux.
Bon allez, hop, c'est parti.
Et alors pour celles et ceux qui n'ont pas lu la presse indé ces dernières semaines, PA, toi tu leur proposes une petite séance de rattrapage.
Eh oui, salut Pierre-Yves. On commence cette revue de presse avec une enquête de Street Press publiée fin avril qui met en lumière l'ampleur des agressions racistes subies par les livreurs de colis. La journaliste recueille les témoignages de 5 livreurs racisés qui racontent un quotidien marqué par les insultes et les agressions racistes, ainsi que les répercussions sur leur santé mentale. Tahar, par exemple, se souvient d'un client qui refuse son colis en lui lançant, je cite, « Je ne prends pas les colis des mains d'un sale arabe ». Depuis, il explique devoir constamment se protéger et être prêt à filmer pour prouver sa bonne foi auprès de sa hiérarchie. Même constat pour Omar, un autre livreur, qui dénonce, je cite, « Les clients nous parlent comme si on était à leur service parce qu'on n'est pas blanc ». Il dénonce aussi des accusations mensongères de vol, certains clients affirmant ne pas avoir reçu leur colis pour se faire rembourser. Et dans ces cas-là, ce sont souvent les livreurs qui trinquent au prix de retenues sur salaire ou de primes supprimées. Derrière ces témoignages, l'enquête pointe une véritable omerta dans le secteur, très précaire et souvent en sous-traitance, car 90% des chauffeurs livreurs ne sont pas directement employés par les grands groupes. Ces travailleurs hésitent souvent à dénoncer les comportements racistes de peur de perdre leur emploi. On passe maintenant au média vert qui s'est penché sur le patrimoine financier plutôt embarrassant de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu. Après avoir épluché sa déclaration à la HATVP, les journalistes révèlent que la ministre détient plus de 150 000 euros d'actions dans 27 grandes entreprises, dont certaines au lourd bilan écologique comme Airbus, BNP Paribas ou encore LVMH. Le cabinet de la ministre se défend en affirmant qu'il s'agit d'un portefeuille géré par sa banque, sans intervention de sa part, et qu'elle aurait même découvert ses investissements au moment de la déclaration. Les journalistes rappellent pourtant très justement que la loi permet à la ministre de savoir à tout moment où son argent est placé. L'ONG Reclaim France réagit auprès de Vert en pointant le risque de conflit d'intérêts et regrettant, je cite, qu'alors qu'un nombre croissant de Français compte les jours jusqu'à la fin du mois, certains ministres comptent leurs dividendes. Enfin, une information plus positive avec la Déferlante, qui raconte une initiative pour améliorer l'accès aux soins des personnes trans. À Paris, l'hôpital Pierre Rouquès-les-Bluets a ouvert fin mars un accueil de jour dédié aux personnes trans masculines pour faciliter la prescription de testostérone en collaboration avec l'association transféministe AcceptST. Au programme, consultation médicale pour obtenir une primo-prescription, échange avec d'autres personnes trans déjà hormonées et même une formation à l'auto-injection. Une avancée importante alors que l'accès aux hormones reste très limité pour les personnes trans, l'article rappelle que 85% des endocrinologues refuseraient purement et simplement de les prendre en charge. Ce dispositif est pour l'instant proposé une fois par mois et pourrait bientôt s'élargir aux personnes transféminines et aux prescriptions d'œstrogènes. Voilà, c'était tout pour ma petite sélection de la presse indé, merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci PA pour cette revue de presse des médias indépendants. Quant à nous, on est aujourd'hui avec le média Getty News, avec les journalistes Leïla Amar et Anderson Desmichel. Vous avez tous les deux contribué au lancement de Getty News, qui est donc un média indépendant qui parle de sujets de société à travers le double regard de journalistes français et de journalistes réfugiés. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce média et ce qui a motivé sa création ?
Ce média, il existe depuis janvier 2019. En tout cas, on a commencé à travailler en janvier 2019. Mais c'était en fait, ça a résulté de la rencontre entre des journalistes français et des journalistes en exil. Pas tous en même temps, ça a été des petites rencontres en Grèce, en France, à droite, à gauche. Et ce tissu de journalistes qui se connaissaient par le biais d'amis, d'anciens collègues, se sont dit « Attends, il y a comme un petit problème dans le traitement médiatique de la migration en France. Et si on créait un média capable de parler de migration autrement avec les gens concernés ?» Et c'est comme ça que Guitty est né. En janvier 2019, on a eu notre première conférence de rédaction avec des journalistes en exil autour de la table et des journalistes français.
En fait, je pense également l'objectif de Guitty News, c'est de porter un double regard sur la migration, c'est-à-dire travailler en binôme avec des journalistes qui ont déjà vécu l'exil et également des journalistes français pour pouvoir mieux commenter des faits liés à la migration et également aussi de donner la parole à ces personnes qu'on, généralement, on entend souvent parler des migrants, mais dans la presse, c'est rare qu'on leur donne la parole pour raconter un peu leur parcours, leur histoire. Donc Guitty News, c'est ce travail-là qu'on fait à travers la rédaction, c'est de donner la parole à ces personnes-là dont on parle souvent, on ne sait pas toujours qui c'est.
Pour cela, l'équipe est composée de plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Sur les gens qui composent l'équipe ?
Sur les gens qui composent l'équipe, qui contribuent à Guitty News, oui.
Alors, il y a quand même un roulement. Nous, on est là depuis le début avec Anderson. Et donc, Anderson, bon, bah, il vient d'Haïti. Moi, je viens d'ici, de la région parisienne. Mais on a des gens de partout, hein, de Guitty. Il y a des personnes du... On a eu des gens du Tchad, du Congo, du Pakistan, d'Afghanistan, du Liban... Il y a vraiment des gens, ça dépend des parcours et ça dépend aussi des périodes. Là, par exemple, forcément, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, derrière moi, le retour des talibans, on a une vague aussi de journalistes qui ont dû fuir leur pays. Et en fonction de l'actualité, il y a aussi plus ou moins de nationalités représentées. Mais Guitty, c'est évidemment une rédaction ouverte à tous les journalistes dans le monde qui, à un moment donné, vont se retrouver en France et ont besoin de continuer à faire leur travail.
Guitty News, c'est aussi donc finalement une façon pour les journalistes qui viennent en France de poursuivre leur activité et pour leur éviter un déclassement professionnel.
Oui, c'est quand même aussi l'une des missions fortes et principales de Guitty, c'est la lutte contre le déclassement professionnel de journalistes qui, quand ils arrivent dans un pays d'accueil comme la France, ont déjà dû tout quitter, y compris leur famille, mais en plus, très souvent, se voient contraints de quitter aussi leur métier. Et souvent, le journalisme, d'ailleurs, 100% du temps, le journalisme, c'est une vocation. C'est pas qu'un métier, c'est un peu une raison d'être. J'en prends pour exemple Anderson, qui pourra en parler mieux que moi. Arriver en France et trouver un espace où on peut continuer à incarner ces valeurs, et en général, ces valeurs qui font qu'on a été chassé de chez nous par manque de liberté de la presse, c'est crucial.
En fait, c'est tellement important de souligner le fait aussi qu'il y a des journalistes qui ont passé 20 ans à travailler chez eux, étant journalistes, et une fois arrivés en France, et ils se trouvent à faire autre chose. Et qui vivait que pour le journalisme, qui se voyait pas faire autre chose, et en fait que faire du journalisme. Donc, Guitty News, je trouve que ouvrir ses portes pour permettre à ces journalistes de continuer à exercer ce métier qu'ils aiment tant, c'est très 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 essentiel.
Et d'ailleurs, c'est pas juste qu'ils aiment ce métier, c'est que nos journalistes à Guitty, pour la plupart, ont risqué leur vie pour ce métier. Ce serait quand même sympa qu'ils puissent continuer de le faire en arrivant ici.
Et c'est important de le rappeler, en effet. Donc le message est passé. Si parmi les auditeurs, auditrices, il y a des personnes concernées, des journalistes qui arrivent en France et qui voudraient contribuer à Guitty News, bienvenue.
Bienvenue.
Il y a la possibilité, ouais, de rejoindre l'équipe. Une équipe qui produit des contenus uniquement sur le web. D'ailleurs, il n'y a pas de format papier pour le moment, c'est bien ça ?
Non, on ne produit que sur le web et on produit des, par exemple, articles, podcasts, en plusieurs formats, mais c'est que sur le numérique.
Oui, et puis il y a des séries aussi, tu parles des podcasts, il y a des rubriques qui reviennent sur un même sujet de différentes façons.
Oui, par exemple, moi j'ai travaillé pendant presque un an sur La Patridie, où j'ai documenté presque une dizaine d'articles sur le sujet avec un collègue qui s'appelle Louis Rutter. Donc il y a des séries, par exemple, et la dernière série c'était avec, je crois, Rachel et Frédérico qui ont travaillé sur les personnes qui ont été hébergées à la caserne dans le 16e à Aix-en-Provence, qui documentaient un peu leur parcours. Oui, on traite parfois des sujets en continu sur une longue période.
D'accord, donc en podcast, en vidéo aussi, c'est ça?
Oui.
Et puis sous forme de chroniques, d'articles. On pourra parler d'une de celles que tu as écrites d'ailleurs, Anderson, tout à l'heure. Et alors comment ça fonctionne concrètement, ce double regard, ce fonctionnement en binôme sur les travaux que vous menez chez Getty News?
Au départ, c'est une rédaction classique, j'ai envie de dire. On a une conférence de rédaction avec tous les journalistes. On propose nos sujets. Et sitôt qu'il y a des sujets qui attirent l'attention du groupe et des collègues, le binôme se forme. C'est-à-dire, qui est intéressé par ça? Si, par exemple, Anderson va proposer quelque chose et que tout le monde va trouver ça génial, en général, on va demander quel binôme français va vouloir travailler là-dessus avec Anderson, et vice-versa. Et c'est comme ça que ça s'opère. À minima, il y a de la relecture. Les uns avec les autres, on se relit beaucoup. Et puis, comme disait Anderson, sur le sujet de La Patridie, il a travaillé avec Louis Viteur, qui est aussi un journaliste indépendant qu'on adore. Et ils ont travaillé à deux là-dessus. Donc c'est l'idée du binôme, c'est que on puisse chacun peut-être aussi sortir de nos cases respectives et élargir notre regard, parce que même si on travaille sur la migration depuis plusieurs années, tous, il y en a qui travaillent dessus depuis plus ou moins longtemps, on a quand même toujours besoin de garder l'éventail bien ouvert. Et en travaillant ensemble, ça nous permet d'avoir toujours cette ouverture d'esprit qui est intrinsèque à l'esprit de Getty News.
Et est-ce que justement l'idée, c'est d'ouvrir les cases, tu veux dire aussi peut-être parler de sujets de société qui concernent d'autres pays que le pays d'origine dont sont issus les journalistes qui font partie de l'équipe?
Oui, c'est en fait entrer des sujets, pas forcément par rapport à nos pays respectifs. Par exemple, je parle pas tout le temps de ce qui se passe en Haïti. J'écris sur d'autres sujets. Par exemple, je parle aussi de des personnes mal logées en France. Je parle des sujets liés à la politique en France et même aussi et dans d'autres pays européens. Donc, on parle pas forcément des sujets liés à nos pays d'origine.
Et pas que de migration d'ailleurs. Ouais. Là, dernièrement, on s'est réunis, on s'est dit, tiens, il y a quand même un sujet qui gangrène un peu, qui semble gangréner la France, c'est aussi la prostitution de mineurs. C'est pas forcément lié à la migration, c'est un problème très national. Et en fait, à Getty, nous sommes des journalistes avant tout. Nous ne sommes pas des personnes qui ne parlent que de migration. Donc c'est important aussi qu'on puisse travailler ensemble, mais sur des sujets qu'on traiterait dans n'importe lequel de nos pays respectifs.
Si on parle des médias indépendants, parlons du modèle économique. Comment est-ce que... Enfin, quel est votre modèle économique?
Le bon sujet du début de semaine. Notre modèle économique, comme tout média indépendant, on est obligé d'être créatif. Puisque, idéalement, tout média indépendant devrait pouvoir exister grâce aux abonnements, grâce à ses lecteurs. Je pense qu'à part Mediapart, il n'y a pas grand monde qui a réussi à faire ça en France. Donc on a un côté prestation, comme la plupart des médias indépendants, où on va faire de l'éducation aux médias. À Getty, c'est vrai qu'on fait ça depuis 2021, éducation aux médias. On intervient pas mal en milieu scolaire, mais pas que, aussi... dans des foyers ou avec des organisations, des assos, parfois qui ont besoin qu'on vienne et parler de migration principalement, où les témoignages aussi des journalistes en exil de Getty News sont toujours la partie très forte de ces interventions. Et également des subventions, des dons aussi. Donc il y a des subventions, des appels à projets. C'est malheureusement obligatoire, quand on est un média indépendant, d'avoir recours à ça. Sinon, on suffoque, on étouffe, on ne peut pas vivre. Et même avec ça, en ce moment, c'est difficile, puisque y a quand même pas mal de médias indépendants qui essaiment comme ça en France. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. Et donc, la part du gâteau, y a quand même pas mal de gens qui ont besoin de se nourrir de ça. Donc, le modèle économique, il est, pour le moment, il est comme ça. Les abonnements, les subventions, les prestations. Mais peut-être qu'il va falloir trouver d'autres avenues, investiguer d'autres potentielles façons de vivre qu'on n'a pas encore en tête.
En tout cas, abonnez-vous alors si vous nous écoutez, si vous nous entendez. C'est 2 euros par mois, l'abonnement à Getty News.
Ça commence à 2 euros avec quand même la plupart des gens abonnés qui donnent un peu plus. Après, c'est libre.
Eh bien, le message est passé. Pour finir, est-ce que vous avez des prochains sujets, prochains dossiers ou prochaines enquêtes à venir sur Getty News ?
En fait, je voulais qu'on continue à travailler sur l'apatridie, qui est un sujet qui m'intéresse énormément, parce qu'il y a très peu de médias, par exemple, qui fait des séries sur le sujet, qui le traite de la façon dont on le traite à Getty News. Je voulais bien continuer cette série où on fait des portraits ou si on fait des articles pour donner des chiffres, pour parler un peu plus d'autres aspects techniques et sur le sujet. Donc ouais, j'aimerais bien continuer le sujet d'apatridie.
À suivre. Donc Leïla, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, pour des sujets, c'est que bon, en ce moment, il y a quand même pas mal de gens qui nous écrivent à Getty. Des jeunes journalistes et étudiants en journalisme en France qui semblent être, c'est quelque chose que j'ai remarqué ces derniers mois, qui semblent être très intéressés par le sujet de l'immigration et qui posent le problème vraiment même au cœur de leurs écoles en disant mais on voudrait que ce sujet-là soit enseigné et donc qui nous demandent à rejoindre Getty et qui proposent des sujets vraiment intéressants. Donc je pense que là, on est en train d'ouvrir aussi un petit peu le champ de ce qu'on a l'habitude de faire. Et là, on a des sujets qui viennent pour parler de disparitions à l'époque de la guerre en Algérie. Donc des choses qui sont pas du tout actu, mais qui rejoignent un peu notre sujet de fond. Et donc, c'est assez intéressant ce qui se profile.
D'accord, donc c'est possible de proposer aussi des sujets, si des idées vous passent par la
Absolument.
Tête.
Absolument.
Merci à tous les deux, Leïla et Anderson, pour cette première présentation de Getty News. On voit un petit peu mieux ce dont il s'agit. L'émission n'est pas finie, restez avec nous. On se retrouve juste après une première pause musicale.
5 dans la voiture pour commencer. On pourra dire qu'on a avancé depuis l'époque du premier opus. Des inconnus qui viennent s'ambiancer, des sourires qu'on aura déclenchés. On finit la tournée à 16 dans le bus. Tout finit par partir, donc aujourd'hui je profite. Le jour où j'ai pas le mojo, je regarde GTO pour éclaircir un peu la météo. J'ai le mental pour surmonter ce que j'aurais peut-être déjà fait. La vie est trop bancale, et si tout était à refaire, bah j'aurais peut-être fait pareil. Avec un accent d'ailleurs, avec un accent de Marseille, sur l'onde à 400 à l'heure. J'aurais peut-être fait la peinture, j'aurais peut-être fait l'aquarelle. J'suis monté dans la voiture de Jacques et Francis Cabrel. J'cours après le bonheur, j'crois qu'il est insaisissable. Donc j'lui ouvre la porte à chaque fois que j'l'entends toquer. Y'a rien de plus beau que l'amour quand il est véritable. J'arrive en claquette sur le chantier, j'aurais pas rêvé mieux. Et si la vie c'est travail, vacances, j'ai mélangé les deux. La famille et la santé, c'est le moteur. Donc après la tournée, faudra rentrer pour réchauffer nos cœurs. J'arrive en claquette sur le chantier, j'aurais pas rêvé.
chauffer nos cœurs. Perdu sous le soleil de Tenerife, je réalise pas vraiment ce qui m'arrive. La réussite est ce qui en découle. Train de vie augmente avec le tarif. Aujourd'hui ça fait chanter les foules. Ça monte les escaliers petit à petit. Je faisais de la musique, je voulais être cool. Je voulais rapper ma vie sur du Vivaldi. Fais-moi ce que je suis. Grâce à la musique, je me télépère. Dans un monde où y'a personne qui pourra me fermer les portes. Grâce à la musique, je me télépère. Je verrai peut-être l'humanité s'éteindre à travers l'objectif du télescope. J'arrive en claquette sur le chantier, j'aurais pas rêvé mieux. Et si la vie c'est travail, vacances, j'ai mélangé les deux. La famille et la santé, c'est le moteur. Donc après la tournée, faudra rentrer pour réchauffer nos cœurs. J'arrive en claquette sur le chantier, j'aurais pas rêvé mieux. Et si la vie c'est travail, vacances, j'ai mélangé les deux. La famille et la santé, c'est le moteur. Après la tournée, faudra rentrer pour réchauffer nos cœurs.
Vous venez d'écouter Rêver mieux de Pete. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Quatrième Murmure.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
On est toujours en plateau avec les journalistes Anderson Michel et Leïla Amar du média Getty News. Et c'est l'heure maintenant de l'enquête du mois.
Je mène en douce ma petite enquête.
Pour d'autres indices ?
Tu as un scoop ?
Il faut venir et puis faire votre métier, vous faites une petite enquête.
C'est du journalisme total.
Avec nous en plateau, je viens de le dire, on est donc avec le journaliste Anderson D. Michel. Toi, tu as fait paraître dans Getty News une enquête en 2022 sur les prisons pour mineurs en Haïti, et notamment les conditions qui sont déplorables. Est-ce que, d'abord, tu peux nous expliquer comment tu as été amené à travailler sur ce sujet ?
Au fait, en 2019, avant de quitter Haïti, parce que j'ai quitté Haïti en juin 2019, j'avais déjà commencé à travailler sur en fait la condition de détention des mineurs dans les prisons en Haïti, qui en fait déjà qui être emprisonné en Haïti, c'est très 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 compliqué, manque de suivi médical, et on va voir, il y a des prisonniers qui, en fait, les prisonniers en général sont sous-alimentés, et il y a pas d'eau potable, en fait, l'espace aussi est très insalubre, et pour les mineurs, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y en a qui se retrouvent directement dans des prisons pour adultes, parce que ils sont restés pendant très longtemps en détention et préventive prolongée, et 2-3 ans, ils sont plus mineurs et ils vont les transférer dans des prisons pour adultes et rester peut-être indéfiniment en prison. Donc ça m'a beaucoup touché, interpellé aussi pour en fait ce sujet. Donc je voulais vraiment écrire un papier pour parler de la situation de ces mineurs-là, surtout pour les jeunes filles. C'est encore plus compliqué. Et j'avais commencé à travailler avec des travailleurs sociaux, mais ça reste très compliqué pour les journalistes, par exemple, d'avoir accès à l'information dans les milieux comme ça, parce que t'es pas le bienvenu, parce que les policiers ne vont pas te laisser y accéder pour poser des questions, pour faire des interviews. Donc j'ai dû enquêter via des travailleurs sociaux et d'autres sources que j'ai envoyées sur place, avec qui m'a permis d'entrer en contact directement avec certains prisonniers au téléphone pour avoir un peu accès à certaines informations et aussi connaître leur situation.
D'accord, donc c'est une démarche qui apporte beaucoup de témoignages, c'est ça ? Tu te bases beaucoup sur des témoignages, donc comme tu le dis, de personnes qui sont incarcérées là-bas, mais aussi...
Et aussi les parents, en fait, les familles de ces mineurs-là, j'ai beaucoup interrogé aussi.
Et ce qu'on apprend, c'est que donc, 8 personnes sur 10 sont détenues de façon préventive, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas formellement reconnues comme étant coupables, etc.
Est-ce que... Il y a un rapport qui a été publié en 2015 qui montre que plus de 70% de la population carcérale est en détention préventive prolongée.
Par rapport à la surpopulation carcérale, quels sont les enjeux sur place par rapport à cette question-là ?
Il y a aussi la surpopulation carcérale, mais il y a aussi un manque d'intérêt par rapport à ces personnes-là qui sont détenues. Et quand je dis un manque d'intérêt, parce que l'État n'encadre pas vraiment ce système. Par exemple, il n'y a pas de vrai suivi psychologique. avant et après la détention des personnes mineures. Et au-delà de ça, c'est que les juges néglige certaines fois certains dossiers, et où parfois on peut voir qu'il y a des dossiers qui sont passés à l'oubli. Ces jeunes-là vont rester très 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 longtemps enfermés vont être en garde à vue, et après vont être transférés dans des prisons pour mineurs. Et ensuite, après 2 ans, 3 ans d'être en détention préventive prolongée, ils vont se trouver dans des prisons pour adultes. Par exemple, ils vont se retrouver à côté des gens qui, par exemple, un mineur qui a commis un délit mineur va se retrouver aux côtés des gens qui ont commis des crimes énormes, hein, des assassins par exemple, ce qui est très 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 pour moi cruel. Et ensuite ne pas avoir de l'assistance psychologique, je trouve c'est encore terrible.
Et donc tu as rencontré ces personnes qui se retrouvent avec d'autres personnes incarcérées dans des conditions vraiment insalubres et déplorables.
J'ai appelé j'ai déjà commencé à travailler avec les travailleurs sociaux. Et comment j'ai été en contact avec ces prisonniers, c'est qu'à travers les travailleurs sociaux, j'ai passé des appels téléphoniques, vidéos, parfois discrètement, pour que les policiers ne puissent pas voir ce qui se passe. Et certaines fois, j'ai des sources aussi qui ont été menacées par la police. Et ce qui est pire aussi, que j'ai pas forcément souligné à travers cette enquête, c'est qu'il y a des mineurs, par exemple des jeunes filles, qui s'est retrouvée enceinte dans les prisons, alors que il y a pas d'hommes, il y a que les policiers. Et il y a même d'autres confrères journalistes qui ont souligné que le fait que les policiers pourraient éventuellement avoir des rapports sexuels avec ces mineurs-là.
Et qu'est-ce qu'elles en disent, ces personnes? Alors, pas forcément celles dont tu parles qui tombent enceintes, mais de façon générale, les personnes à qui tu as parlé sur place, comment est-ce qu'elles décrivent leurs conditions?
Déjà, ce sont des personnes traumatisées, ces jeunes filles-là. Ils sont aussi sous beaucoup de menaces et ils veulent pas forcément révéler comment ça s'est arrivé. Et ça peut pas arriver par miracle déjà. Et ouais, donc j'étais en contact avec ces mineurs-là. Ce sont souvent des personnes assez traumatisées. Par exemple, quand je parle de le fait qu'ils sont sous-alimentés, les parents sont obligés de ramener au moins un repas ou 2 repas par jour et donner ces repas-là aux policiers qui, certaines fois, revendent ou ils vont manger directement le repas qui était destiné à des mineurs.
Et c'est les parents qui sont obligés d'apporter à de la nourriture à leurs enfants
incarcérés. Parce que certaines fois, il y a un repas par jour, pas tous les jours, hein, certaines fois, il y a un repas par jour. Et par exemple, ils préparent toujours du riz aux haricots, qui n'est pas assez équilibré déjà comme repas. Et ça, ils ne distribuent pas tous les jours ce repas. Donc les parents sont obligés de cuisiner et ramener à manger dans les prisons. Et certaines fois, il y a des parents aussi qui ont abandonné leur enfant, leur mineur dans les prisons. Il y en a qui se retrouvent seuls, sans visite, complètement délaissés.
Et donc cette enquête et ces témoignages, tu les as publiés sur Getty News, qui a la particularité d'apporter un double regard à travers des binômes. Comment ça s'est manifesté pour toi, cet exercice-là, sur ce sujet en particulier ?
Sur ce sujet, j'ai beaucoup travaillé avec notre ancienne rédactrice en chef, Nina Gueda, qui m'a beaucoup aidé, par exemple, sur langue et aussi sur comment, par exemple, protéger certaines sources, parce que c'était très, très, très délicat. Hein. Je voulais pas que, par exemple, les policiers puissent remonter à ces travailleurs sociaux. J'ai même utilisé en fait, c'était sous anonymat. J'ai pas utilisé de vrai nom. Donc, il y avait pas mal de choses qu'elle m'a beaucoup aidé là-dessus, et sur, par exemple, le choix des images, sur beaucoup d'autres aspects aussi. Donc c'était vraiment un travail en équipe.
Oui, parce que les entretiens vidéo n'ont pas été diffusés, j'imagine. Non. C'était un support pour toi ensuite rédiger ton enquête. Et est-ce que justement cette enquête, tu as des retours? Elle a été donc publiée en 2022. Oui. Tu sais s'il y a eu des évolutions, soit dans la société là-bas sur ce sujet-là, ou est-ce que au contraire, il y a pas eu d'effet particulier?
Malheureusement, ça devient encore plus compliqué, la condition des prisonniers de façon générale. Par exemple, il y a environ une vingtaine de prisons en Haïti, et il y a environ aussi 12 000 prisonniers qui sont incarcérés dans 20 prisons, mais très 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 petit. Hein. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de prisons aussi qui ont été détruites par la violence, par les gangs, et beaucoup de cas d'invasion. Donc c'est, ça devient encore plus compliqué de parler de ce sujet. Et même le cas de malnutrition, ça a encore augmenté à plus de 200% parce que les prisonniers passent parfois une semaine, deux semaines sans être nourris, et l'eau n'est pas du tout potable. Parfois, ils récupèrent l'eau de la pluie qui est déjà pas du tout potable, très sale. On va voir qu'ils vont avoir des problèmes dermatologiques. Et généralement, quand ces prisonniers-là, de leur situation médicales deviennent très 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 compliquées. Certaines fois, les policiers vont les relâcher dans la nature parce qu'ils sont sur le point de mourir. Ils ne vont pas laisser parfois certains prisonniers mourir dans les cellules. Ils les lâchent ou les amener à l'hôpital. Vraiment, mais quand c'est très 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 compliqué, quand ces prisonniers-là sont entre la vie et la mort.
Mmh. Oui, c'est histoire de montrer qu'une petite chose est faite, mais en réalité, ça cache le reste de l'iceberg, comme on dit.
Ça devient encore plus compliqué, la situation.
Et la surpopulation carcérale continue d'augmenter, donc j'imagine, si rien ne s'arrange.
C'est plus de 804%, pour être précis.
804% de surpopulation carcérale, on a du mal à s'imaginer. Merci en tout cas, Anderson, pour toutes ces précisions, et surtout merci pour ce travail qui est important et qui est encore trop peu mis en avant dans les médias français. Et justement, Leïla, toi, tu as participé à rédiger l'an dernier la charte de Marseille sur le traitement médiatique des migrations, qui se tient en 11 principes. Avant d'entrer dans le détail de ces principes, comment s'est manifestée la nécessité de rédiger cette charte ?
Ça a été une prise de conscience collective. On n'est pas les seuls. On travaille avec une association qui s'appelle Desinfox Migration, qui a pour but de rapprocher le monde de la science, de la recherche sur les migrations, avec le monde médiatique. Et donc, Julia Montfort, qui est notre ancienne rédactrice en chef à Getty News, après Nina Guédard, nous avons eu Julia Montfort, qui elle-même a créé une série documentaire qui s'appelle Les Carnets de Solidarité, qui a publié un livre à ce sujet sur l'accueil d'un jeune migrant chez elle, avec son mari. Et donc, c'est une série documentaire que j'invite tout le monde à voir, à découvrir sur YouTube. Julia m'a parlé d'un effort collectif qui serait en train de se dessiner, voilà, avec d'autres membres d'associations et de journalistes qui se disaient, comme nous d'ailleurs, le sujet des migrations a eu une petite fenêtre où on avait un peu d'empathie pour les personnes migrantes, et puis tout de suite c'est devenu un sujet comme un marronnier sur l'insécurité, sur la menace identitaire. Et on ne parle de migration plus que comme ça, presque. Et surtout, on se rendait compte qu'au fur et à mesure des années, on avait de plus en plus de mal, quand on voulait parler de migration autrement, on avait de plus en plus de mal à être audible dans le paysage médiatique. Et donc, on s'est dit qu'en tant que journaliste, quand même, on avait cette responsabilité de venir mieux informer les Français sur ce sujet-là. Et comment pouvoir le faire si chacun de notre côté, on sent qu'on peine, le sujet étant massivement récupéré par des politiques à des fins électorales très souvent. Et donc, on s'est posé un jour autour d'une table en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui se passe là dans la profession ? Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Proposons quelque chose. Donc, avec des syndicats de journalistes, d'ailleurs, nous, en tant que médias, avec des Infox, on s'est dit, bon, pourquoi pas une charte ? Mais bon, ça, c'était l'idée de base, mais ça a nécessité quand même un certain nombre de passer un certain nombre d'étapes avant d'arriver à cette charte.
Donc, cette charte qui, maintenant, est composée de 11 points, 11 principes, j'imagine que ça n'a pas été si simple de les trier, de les catégoriser.
Mais c'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne peut pas arriver avec une... Comment est-ce qu'on arrive et qu'on écrit une charte, en plus à destination de journalistes qui ont déjà la charte de Munich et la charte de la FIJ, la Fédération Internationale des Journalistes, qui existe depuis plus d'un siècle. Donc, et puis, Munich, je crois que c'est 79, la charte de Munich, il me semble, 79, bon, je ne sais plus exactement, l'année 70. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus? Et puis surtout, à quoi bon rédiger une charte si finalement, ça va être un peu comme, vous savez, les articles sur la laïcité qu'on a dans toutes les écoles, et puis, mais personne ne connaît ces articles-là. Donc, dès le départ, on a souhaité que cette charte soit un point de départ pour la discussion dans les rédactions et qu'elle prenne vie, en réalité, au cœur des rédactions. Donc, on s'est inspiré. On a fait d'abord un audit qui a été fait par Mélodie Beaujeu et Tania Rachaud de Désinfox Migration, qui ont regardé ce qui se passait chez nos voisins européens. Et donc, quand on a pris connaissance des résultats de cet audit, on a vu qu'en fait, en Italie, en Grèce, il y avait déjà des chartes qui avaient assez bien fonctionné. Et on a pris contact avec ces personnes-là, qui les gens de la charte de Rome notamment, pour leur demander, alors comment est-ce que vous faites, vous, chez vous, pour que cette charte prenne vie? Comment est-ce que les journalistes s'en emparent? Et on s'est vraiment... ça a été un travail très collectif. Donc, on a créé un focus group de journalistes en France, de journalistes qui avaient envie de parler de ça, qui pouvaient nous donner pas que des idées, mais aussi un vrai retour sur les obstacles auxquels ils et elles faisaient face au cœur de leur rédaction. Quand ils voulaient proposer des sujets sur la migration, par exemple, ou est-ce qu'il y avait un problème de formation, est-ce qu'il y avait des réticences, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas si c'est un problème philosophique. Donc on avait besoin déjà de comprendre ce qui se passait chez nos collègues pour établir une charte qui corresponde, qui vienne répondre à des réels besoins sur le terrain.
Oui, donc l'idée, c'est de vraiment fabriquer un outil à destination de ces rédactions pour qu'elles aient une meilleure couverture, qu'elles proposent une meilleure couverture de ces sujets, des sujets liés aux migrations. Toi, tu organises, toi aussi, Anderson, tous les deux ensemble, peut-être d'autres aussi personnes de l'équipe, des formations à destination des rédactions.
On organise, alors Guiti fait partie du collectif de la charte de Marseille, on est le seul média qui fait partie de la charte, du collectif, ça a été rédigé, ça avec un autre binôme, Ibrahim Chayeb, qui est un de nos journalistes en exil du Liban, et on propose des formations à destination des rédactions et des journalistes, qui ne sont pas forcément en rédaction d'ailleurs, des journalistes pigistes. On a eu pas mal de journalistes indépendants jusqu'à présent. Ça va faire presque un an maintenant que la charte existe. Et on se rend compte que c'est super qu'elle existe. Elle essaime. Et il y a un travail quand même à faire pour que les rédactions maintenant s'ouvrent au sujet et s'emparent de cet outil.
J'imagine qu'il y a des médias qui ne sont pas forcément très amis avec ces sujets-là, justement contre lesquels potentiellement la presse indépendante de façon générale lutte, mais aussi surtout Getty News et la charte de Marseille. Quel a été le retour sur cette charte?
Ils nous ont fait de la pub.
Ah oui.
Bah, disons que c'est sûr que, enfin, ce sont des médias qu'on n'appelle pas médias d'information d'ailleurs, c'est plus des médias d'opinion. Et évidemment, aller sur ces plateaux-là, parler de ce sujet, collectivement, on a pris conscience qu'il n'y avait que très peu d'intérêt aujourd'hui. Je ne parle pas que des médias, que des experts dans les médias ou autres, mais c'est plutôt un constat collectif. Ça devient très difficile de parler de ce sujet-là dans des médias d'opinion, puisqu'ils ne sont pas là pour informer, mais plutôt pour faire passer une idéologie. Donc bon. Mais sinon... on a quand même pas mal de signataires. On a eu la chance, mais c'est aussi du travail, à la naissance, au 29 avril 2025, quand on a lancé la charte à Marseille, et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle la charte de Marseille, on a eu une cinquantaine de journalistes, de rédaction, dont Mediapart, dont L'Humanité, dont Reporter, dont vraiment des médias très sérieux, en tout cas, qui font un très bon travail journalistique, qui se sont, qui ont été solidaires de la charte et qui l'ont signée. Et on a plus de, on a presque 400 journalistes aujourd'hui qui ont signé en nom propre. Donc c'est surtout sur ça que nous on se focalise. Et on a eu des écoles de journalisme. Ça continue. On a encore eu deux autres la semaine dernière qui ont décidé de signer. Et des masters aujourd'hui en journalisme, des écoles de journalisme qui intègrent le sujet des migrations maintenant dans leur cursus. Ça commence. Donc ce travail, c'est... Bon, s'il y a des médias qui ne veulent pas entendre parler de la charte, très bien, on est dans un pays libre, mais on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus d'organisations, que ce soit dans les syndicats, dans les écoles, dans les rédactions, qui commence à trouver ça intéressant et nécessaire. Et
donc depuis un an, des rédactions, des écoles, et enfin différentes personnes ou institutions ou organisations qui s'en emparent. La presse indépendante, comment elle se positionne justement dans le paysage médiatique vis-à-vis de cette charte ? Est-ce qu'elle est bonne élève, mauvais élève ?
Bah, disons que la presse indépendante, les principes de la charte, ils sont déjà assez familiers de ces choses-là. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les médias indépendants. Il y a une attention particulière au sujet de la migration dans les médias indés en général. Ça ne veut pas dire que tout le monde... Il y a des médias qui n'ont pas signé la charte, mais aussi parce que, tout simplement... c'est pas tous les médias qui ont pour politique de signer des chartes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit celle sur l'environnement, sur l'IA, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en appliquent pas les principes. Voilà, c'est juste une ligne comme ça. Mais dans le monde des médias indépendants, en tout cas, on se connaît et on a tendance à se soutenir aussi parce qu'on ne sait que trop l'aventure que c'est d'informer correctement dans le monde actuel.
Et oui, en effet. Et alors, comment peuvent s'y prendre les médias pour rejoindre ou pour signer cette charte ? Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut se rendre ?
Oui, le site de la charte de Marseille. Quand on tape charte de Marseille, charte sur l'information et les migrations, on tombe sur un site très simple. Il y a un onglet à gauche qui s'appelle « Signer la charte ». Et on clique dessus. Nous, on reçoit un message et on inscrit le média ou n'importe quelle personne, d'ailleurs, en nom propre. C'est très bien aussi en tant que signataire de la charte.
Eh bien, le lien sera indiqué sur le site de Quatrième Murmure. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et alors, pour finir, quelles sont les perspectives de cette charte de Marseille ? Quelles sont les suites ?
Les perspectives. Alors, pour le moment, on est en train de travailler sur un glossaire. Pas qu'un glossaire, mais aussi, comme on vient de terminer, une petite illustration de la charte pour apporter des principes, entre guillemets, je dirais pas de base, mais des principes importants quand on traite des migrations dans le monde médiatique. On aimerait pouvoir créer un kit. Ça nécessite évidemment d'avoir un peu de sous pour le faire, parce qu'on est tous bénévoles, tous et toutes bénévoles. Et les perspectives, c'est qu'on a déjà commencé à dispenser des formations pour les journalistes. En général, c'est sur une journée ou une demi-journée. Et ces formations, elles proposent quand même donc on parle des principes de la charte, mais on fait des ateliers pratiques avec aussi des chercheurs, des chercheuses en migration, spécialistes des migrations et des journalistes. C'est important de travailler ensemble avec le monde de la recherche. Ça nous donne une perspective incroyable sur le sujet, même quand on est, parce que quand on est journaliste, on n'est pas nécessairement expert des migrations. Et donc, la perspective, c'est de pouvoir développer ces formations et les proposer à un grand nombre de médias, notamment de médias régionaux en France. Ça, c'est vraiment l'objectif de l'année qui vient.
D'accord, eh bien, rendez-vous, c'est entendu, peut-être dans les médias en région. Nous, de notre côté, on fait une deuxième pause musicale. On revient juste après. J'irai pas au taf.
Un débile m'a m'a dit que le travail rendait libre. J'ai répondu que c'est ce qui est écrit à l'entrée d'Auschwitz. C'est facile à dire quand on a le nez dans les livres. Le génie prend du plaisir avec le travail selon Nietzsche. Ça c'est bien l'idée d'un gars qui a jamais eu à nettoyer des chiottes. Le travail rend libre que ceux qui se foutent de ceux qui le rapportent. Ça te fait pas rentrer dans le palais mais t'en nettoies la porte. Qui a dit déjà qu'avec ce contrat il était d'accord? Papa m'a dit démissionne pas. Maman m'a dit je suis fier de toi. Papa m'a dit démissionne pas. Maman m'a dit je suis fier de toi. J'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et que j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? J'irai pas au taf. Un travail qui paie que le logement et la bouffe c'est de l'esclavage. Ce n'est pas un ascenseur social, non c'est de l'escalade. Tu veux pas faire staff dégradant, mal payé c'est un scandale. Si je décrivais le mien à mes aïeux je prendrais une mandale. Mes parents parlaient de la valeur travail, mais le travail ça vaut rien. 15 centimes la minute est obéi comme du bétail. Je veux une foutue médaille pour tous mes shifts de chien au fond des cuisines où on braille. Papa m'a dit démissionne pas. Maman m'a dit j'suis fier de toi. Papa m'a dit démissionne pas. Maman m'a dit j'suis fier de toi. J'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et que j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? J'irai pas au taf, ouais. J'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et que j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? J'irai pas au taf.
On vient d'écouter « J'irai pas au taf » de Fellure et Andro sur Radio Campus Paris.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
Et comme d'habitude en fin d'émission, on va en région avec toi Cléo, à la rencontre de la presse indépendante locale.
Je me casse de Paris.
Je vais voyager.
Je fais le tour de France.
Il y aura toute la presse locale.
Vous avez peut-être tout simplement envie de voir du pays.
Louise Katz, bonjour. Tu es journaliste et cofondatrice de Les Trois Ours, un média indépendant breton qui fait monter l'information sur scène. Pour commencer, qu'est-ce qui a motivé le lancement des Trois Ours ?
Eh bien, ce qui a motivé le lancement des Trois Ours, c'est l'envie de recréer du lien entre journalistes et informés. En fait, on avait envie de répondre à ce besoin social-là. C'est-à-dire les problèmes posés par la défiance croissante envers les journalistes. Voilà, donc ça c'était la première envie. Et puis la deuxième envie qui a été très centrale dans le montage du projet, c'était aussi l'envie de réconcilier les gens, pas seulement avec les journalistes, mais avec l'info elle-même, et d'essayer de répondre un peu à notre mesure à ce problème posé par la fatigue informationnelle, que maintenant on appelle exode informationnel, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à trouver que l'information est hyper anxiogène, à vraiment, voilà, après un flash info à la radio, à se dire « crise d'angoisse, PLS, mort ». Et donc on avait envie de recréer des espaces où on puisse continuer à s'informer, parce que c'est vital pour nos démocraties, mais en le faisant collectivement et en se sentant bien.
Et pour lutter contre cet exode informationnel, vous avez mis au point en fait un format qui est un peu particulier, c'est-à-dire que vous traitez d'actualité à travers un spectacle, en fait, à travers des récits vivants. Est-ce que ça a un sens particulier de le faire de cette manière ?
Ouais, ça a complètement un sens particulier, enfin du moins on l'espère. D'abord, c'est de faire monter l'information sur scène dans une salle de théâtre ou une salle de spectacle. Il y a quelque chose de particulier qui est déjà qu'on a un récit à la première personne, on peut s'identifier aux journalistes. Vraiment, on essaye de redonner aux journalistes sa dimension humaine, c'est-à-dire de le mettre en scène dans sa vie quotidienne, ses petits tracas, ses doutes éthiques, ses regrets. Parfois les journalistes font des choix et ils le regrettent, ils se retrouvent pris dans des choses, et qu'on essaye que les informés puissent se dire « ah bah mince, moi qu'est-ce que j'aurais fait aussi ?» C'est pas forcément simple, ça va pas forcément de soi. Voilà, donc c'est aussi un moment pour le journaliste de réflexion, de revenir sur son travail. Ce que ça change aussi, c'est le spectacle vivant, c'est-à-dire le fait d'être ensemble dans une salle, c'est-à-dire de vivre un moment collectif. regarder un concert en retransmission à la télé et y être, c'est deux expériences radicalement différentes. Et donc, bah voilà, nous, quand on est ensemble dans une salle d'info, c'est très différent que d'être face à son écran sur Instagram, par exemple, parce que là, le voisin d'à côté, on voit qu'il est énervé, on voit qu'il est triste, mais on ne va pas dialoguer avec lui de la même façon que sur les réseaux sociaux. Donc, on voulait vraiment aussi recréer du lien entre informés. Et puis la dernière chose que ça change, c'est que comme il n'y a pas de captation, le journaliste, il est libre dans sa parole, il dit des choses qu'il ne raconte pas ailleurs. Et ça, c'est vraiment super important. Et aussi, les informés, ils choisissent le moment où ils viennent, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont venir à 19h pour s'informer. Et donc ça, c'est aussi une manière de se réconcilier avec l'actu, parce que souvent, l'actu, elle nous tombe dessus via des notifications push ou dans un fil Instagram au milieu de recettes de cuisine et de vidéos de chatons ou autres. Et du coup, on n'est pas prêt, quoi. Et c'est ça qui nous agresse. Alors que si on se dit que là, on décide de s'informer et qu'on est ensemble face à l'info, tout de suite, ça va beaucoup mieux.
Et justement, en parlant de l'actu, vos précédents spectacles y portaient par exemple sur le projet de mixité sociale dans un collège de Nantes ou alors sur la reconstruction après le cyclone Chido à Mayotte. Comment vous, de votre côté, vous choisissez les thèmes ou les journalistes qui vont monter sur scène? Quelle est en fait la ligne éditoriale?
Alors la ligne éditoriale, on va dire, c'est les sujets mal aimés ou clivants. C'est-à-dire les sujets dont soit on n'entend pas parler, ou pas assez parler, ou les sujets dont on ne veut plus entendre parler. Donc c'est une ligne éditoriale un petit peu audacieuse, parce qu'elle est a priori rebutante pour d'autres raisons. Donc typiquement, le cyclone Chido à Mayotte, c'était ça le choix. C'est-à-dire de se dire, bah, les territoires d'outre-mer, enfin ou hors France hexagonale, on en parle peu dans les médias, parce que bah voilà, on est métro centré quoi. Et aussi quand il y a une catastrophe comme Chido, on parle éventuellement beaucoup de la catastrophe sur le moment, même si on en a peu parlé par rapport à s'il y avait eu un cyclone dans le Gers par exemple. Mais un an ou deux ans plus tard, on n'en parle plus, alors qu'en fait Mayotte, ils sont encore complètement encore dans les suites de ce sujet-là.
Oui.
Et voilà, et donc dans les autres sujets qu'on a pu traiter, on a aussi traité comment raconter la guerre à Gaza avec Reporters sans frontières ou le procès des viols de Mazan. Donc voilà, typiquement, sujets qui ont saturé l'actualité avec un potentiel très clivant. On ne sait plus comment s'en parler ensemble. Enfin, donc ça va être une manière de choisir les sujets. Et puis l'autre particularité, c'est qu'il y a une autre chose sur laquelle on voulait travailler, c'est la question de la surcharge informationnelle, l'infobésité. Il y a énormément d'infos aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, on travaille toujours avec des médias partenaires. C'est-à-dire qu'au lieu de recréer de l'information supplémentaire, on travaille sur de l'information qui existe déjà, des reportages ou des enquêtes qui ont déjà été menées, avec dans l'idée de donner un écho à ces travaux-là, avec toujours cette idée. On a une baseline non officielle qui est l'info et comment elle se fait. C'est-à-dire que ça, c'est l'autre aspect de la ligne éditoriale des Trois Ours qui est hyper important, c'est que tous nos spectacles sont conçus pour faire éducation aux médias. Auprès de tous les publics, l'éducation aux médias, c'est pas que pour les enfants ou les ados, c'est pour tout le monde, on en a tous besoin. Et donc, c'est d'expliquer aux gens l'info et sa fabrique. Donc, on reprend des sujets en demandant aux journalistes de vraiment jouer le jeu, d'expliquer comment ils ont travaillé et tout ce qui a pu poser questions ou difficultés dans leur travail.
Oui, et votre média propose d'ailleurs des formations et ateliers d'éducation aux médias et à l'information, il me semble.
Oui, exactement. Bah, c'est complètement complémentaire et pour nous, c'est la même activité en fait.
Si on parle un peu du modèle économique du média, donc en fait, quand on parle de journalisme vivant, c'est un peu particulier. Vous en avez d'ailleurs parlé récemment sur votre site. Et donc, de par ce statut, il me semble que les Trois Ours ne bénéficient pas de certaines aides, lesquelles? Et comment le média est-il financé alors?
Eh bien, pour l'instant, le média, il est complètement financé sur ses ventes, c'est-à-dire sur la billetterie. Donc, on dépend complètement de nos spectatrices et de nos spectateurs. Et après, on travaille aussi, il y a des spectacles qu'on vend à des structures. On a des spectacles dits de commande, mais on travaille toujours en restant maître de notre ligne éditoriale. C'est ça le principe. Donc, c'est-à-dire, on choisit les invités, on choisit de quoi on parle. La structure nous fait confiance. Et puis, bah, tous nos ateliers, nos formations, et c'est comme ça que pour l'instant, on se finance. En fait, ce qui est particulier quand on fait du journalisme vivant, c'est qu'on ne rentre ni dans les cases du journalisme, parce que le média vivant ou le journalisme vivant n'est pas reconnu comme un média au même titre qu'un site web, qu'une publication papier ou même qu'un podcast ou qu'une newsletter. Donc là, on fait un peu un travail de plaidoyer auprès de la commission paritaire de presse et des agences de presse pour qu'elles commencent à prendre en compte l'existence de cette forme médiatique. Et puis, on n'est pas non plus dans les clous du spectacle vivant, parce que le spectacle vivant, il repose sur une économie de tournée. Il faut programmer un spectacle qui soit programmé dans plusieurs salles de spectacle. Et nous, on travaille avec des journalistes qui, par essence, ne sont pas comédiens, et surtout ont un métier, donc ils ne peuvent pas faire tourner un spectacle sur beaucoup de dates. En plus, on réagit à l'actualité, donc on essaye quand même si on a des sujets d'actualité un peu au long cours, on fait peu d'actu vraiment chaude, même si on en fait un petit peu. Et ça, c'est très compliqué à programmer pour les salles qui travaillent souvent un an, deux ans en avance sur des spectacles où il y a une note d'intention, où il y a des mois d'écriture, de résidence, de travail, une coproduction entre plusieurs salles. Donc, c'est très difficile pour nous de nous mettre dans cet écosystème-là. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre, mais on travaille à avoir et l'un et l'autre.
Et justement, est-ce que vous songez à évoluer vers un autre modèle, comme par exemple un modèle qui serait basé sur le don?
Carrément, le don, ça pourrait carrément en faire partie, notamment parce que là, le problème d'être sur de la billetterie et surtout sur des spectacles qui ne bénéficient pas de subventions, ça fait qu'on a des tarifs qui sont pas très élevés, mais qui sont quand même relativement élevés. Or, nous, on a envie de pouvoir on a eu beaucoup de demandes, par exemple, pour des petites communes d'Ille-et-Vilaine, puisque nous, on est basé à Rennes, et on peut pas y aller pour l'instant parce qu'il n'y a pas le public suffisamment nombreux et suffisamment prêt à payer, par exemple, 15 euros pour qu'on puisse rentrer dans nos fonds. Donc, pour l'instant, ça serait des représentations qu'on ferait à perte. Mais nous, on est persuadés parce que le projet reçoit des très bons échos. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a bon espoir de pouvoir aussi trouver des subventions. Mais que justement, si on a cette promesse que d'aller en périphérie, que d'aller en ruralité, que d'aller auprès de publics qui sont éloignés de l'info, il y ait des gens qui nous fassent des dons pour qu'on puisse justement faire des spectacles qui soient gratuits.
Ce serait super, en effet. Écoute, Louise, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant. J'ai hâte de venir en région pour pouvoir assister à un des spectacles des Trois Ours.
Et, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, merci Cléo et merci Louise en Bretagne du média Les Trois Ours. Allez les soutenir et leur donner de la force car c'est un très chouette projet. Quant à nous, c'est déjà la fin de l'émission. On était avec Leïla Amar et Anderson Desmichel du média Getty News. Merci encore à tous les deux d'être venus sur le plateau de 4ème Murmure. Merci aussi à PA pour la technique et pour sa revue de presse. Merci à Cléo pour son interview en région. Et merci à vous, fidèles auditeurices. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés et à venir sur radiocampusparis.org. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @4ème.murmure. Et on se retrouve le mois prochain pour un épisode spécial avec le collectif de pigistes Focus. Bonne soirée et à bientôt !